Cela. Merci. Il y a de l'eau ici encore.
Oui, c'est bon. Oui, merci. Félicitations aux heureux gagnants. En fait, vous êtes la démonstration 2 sur 3 était assis en avant dans la première rangée. Vous ne les aviez pas remarqué, hein? Morale de l'histoire, si vous voulez gagner... OK, tout va bien. Ça va, vous avez bien mangé et tout. Quels sont ceux qui s'endorment en ce moment? OK. Donc, je vais vous encourager à surveiller votre voisin. Si vous le voyez un peu trop méditatif, ce n'est pas de la méditation. Secouez-le un petit peu. OK. Vous, en avant, je vais vous surveiller. OK. Donc, ce matin, on a introduit ce sujet à partir de la recherche du bonheur, de la quête du bonheur qui est, encore une fois, rattachée à nous tous comme êtres humains. Comme personne humaine, ce sont des préoccupations que nous avons comme êtres humains. Mon petit chien à la maison ne se préoccupe pas s'il est heureux ou non. Lui, il mange, il court, et on a même l'impression parfois qu'il nous aime. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement canin. Mais nous, on est plus sophistiqués que cela. Vous allez voir un peu dans ce second partage comment, dans la nature humaine, on est beaucoup plus réfléchi sur les grandes questions, sur à la fois les grandes questions de notre vie, mais aussi sur notre nature profonde. Et donc, je vais... on va reprendre un petit peu la même question que ce matin. Ce matin, c'était heureux. Et maintenant, c'est heureux ensemble. Est-ce qu'il y a possibilité d'être heureux ensemble dans une vie à deux? On a l'impression parfois que c'est déjà difficile d'être en paix avec soi-même, d'être, épanoui personnellement. Quelqu'un a dit un jour, j'ai cherché l'ennemi. Je l'ai trouvé. C'était moi-même. Okay? On est souvent nos pires ennemis. On est souvent... on est capable de s'auto-saboter soi-même. On est parfois submergé par des pensées négatives et tout cela. Et ce que cela peut... être changé dans notre relation avec quelqu'un d'autre ou si on va se retrouver avec un fardeau supplémentaire? La réponse est que bien évidemment, on peut être heureux ensemble et bien évidemment, comme je l'ai mentionné ce matin, c'est une valeur ajoutée. Je reviens au texte que je vous avais cité ce matin. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quitter un peu le sens très, très littéral de seulement une femme. Pour une femme qui trouve son mari aussi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de la grâce. Le texte dit « celui qui trouve une femme ». Dans le mot « trouver », moi, je pense encore immanquablement à la notion de recherche. J'ai cherché, j'ai trouvé. Cherchez, vous trouverez. C'est important d'apprendre à chercher et non pas de trouver ce qu'on a à portée de main là, spontanément. Ce que je remarque au fil de toutes les années, vous savez, quand je suis confronté à des couples dont le mariage est vraiment mal en point, une des premières questions que je leur pose, c'est « vous vous êtes fréquenté pendant combien de temps? » La seconde question que je leur pose, c'est « est-ce que vous avez été préparé au mariage? » Okay? Puis dans la grande majorité des cas, ils ne se sont pas fréquentés très longtemps et ils n'ont pas du tout eu de préparation au mariage. Je dirais qu'à la limite, ça pouvait aller il y a 40 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Mais maintenant, le mariage, et vous le voyez dans vos propres relations avec vos amis, au bureau, au travail, peu importe, les gens mariés, ce n'est pas la majorité maintenant. Hein. Les gens vivent en union de fait, ils vivent en concubinage. Parfois, ils vivent ensemble en étant dans deux appartements différents aussi. Ils vivent ensemble. Ils se fréquentent, mais ils sont dans deux... Il y a toute cette question-là. Mais le mariage, c'est quelque chose de valorisé. L'an passé, ceux qui étaient ici l'an passé, lorsque j'étais venu, ouais, j'avais signifié, si vous vous rappelez, que le mariage, c'est l'invention de Dieu et que le mariage, c'est aussi l'intention de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le cadre d'un mariage qu'on ne retrouve pas aussi dans d'autres circonstances. Dans d'autres contextes de vie humaine. Le mariage, ce n'est pas quelque chose d'irréfléchi, ce n'est pas quelque chose dans lequel on plonge de façon irréfléchie, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps nécessaire. Donc, pour trouver, évidemment, la bonne personne, quitter la représentation aussi que le mariage est... Dieu n'est pas président de l'agence de rencontres célestes. C'est vous qui vous mariez, c'est vous qui choisissez la personne. Vous pouvez prier, vous devez prier, mais le choix final, c'est vous qui allez signer le contrat. OK, c'est vous qui allez assumer la responsabilité de tout cela. Fait que souvent, quand les gens disent, oh, c'est Dieu qui me l'a envoyé, tout cela, quand ça va, ça va, mais quand ça se met à aller mal, est-ce que Dieu se serait trompé par hasard? La réponse, c'est que ne mettons pas le fardeau sur Dieu, assumons nos propres responsabilités dans la gestion de notre mariage. Mais néanmoins, le mariage, c'est une idée divine. Si vous voulez, on va replonger un petit peu dans certains textes du livre de Genèse surtout. On va parler de création. Puis j'aimerais l'espace d'un instant que vous quittiez une représentation religieuse des choses pour aller vers une représentation humaine des choses, humaine en sens en chair et en os de la nature humaine profonde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Comme croyants, nous croyons que Dieu est derrière les choses, Dieu est derrière toutes choses. Moi, j'y crois aussi et je le valide comme étudiant de la nature humaine et comme intervenant auprès de la nature humaine, qu'on porte en chacun de nous, malgré certaines déformations dont on peut avoir été l'objet par notre nature humaine pécheresse, mais aussi par les expériences de la vie douloureuses parfois, on garde en nous des traces de la ressemblance à Dieu. On n'est pas des dieux, mais on a des caractéristiques, dont entre autres la conscience, donc entre autres la morale, la valeur morale. On porte en nous des éléments comme ça que le reste de la création n'a pas. Donc Dieu a créé l'être humain et Dieu poursuivait une intention quand il a créé l'être humain, non seulement en termes de but, mais en termes de nature et de constitution. Il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Et vous savez que dans un contexte actuel où on se pose des énormes questions, où on a beaucoup de remises en question sur le genre, sur les genres humains, ça nous rassure de savoir que derrière tout cela, derrière tout cette... Parce que, vous savez, cette question de genre humain, tu choisiras ton identité, tout ça, c'est quelque chose d'idéologique. Hein? Ce n'est pas quelque chose de génétique. Ce n'est pas quelque chose qui est rattaché à notre création, la façon que Dieu nous a créé. C'est idéologique ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, sans porter un jugement sur quiconque, tous ceux qui, dans ce monde, luttent face à leur identité, tout ça, face à leur recherche d'identité, la véritable question, c'est que Dieu créa l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Donc, c'est beau, c'est l'idée originale de Dieu, cette création de la nature, de la personne humaine et tout ça, c'est une bonne idée. Pardon, il y a une petite constatation. Dieu donc a créé l'homme. La constatation est la suivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient où il mit l'homme qu'il avait formé. Donc ça, c'est la création d'Adam. Le texte mentionne qu'il a été mis dans un contexte idéal, c'est-à-dire c'est le jardin d'Éden. Bon, on va voir un petit peu tout ce que cela peut représenter. Parfois, les croyants, quand ils lisent le livre de Genèse, bien qu'on professe, bien qu'on professe l'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures, quand on lit des textes comme ça, on se dit « ouais, mais c'est un peu… » Il y a une richesse dans ces textes-là. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements, et il y a plus que simplement une histoire un peu mythique, à la limite peut-être un petit peu mythologique que certains peuvent imaginer. Il y a une source d'information qui nous aide à mieux nous comprendre, à mieux comprendre comment on fonctionne comme être humain. Donc, Dieu les a placés Adam dans le jardin d'Éden. À ce stade-ci de l'histoire de l'humain, dans Genèse chapitre 2, Adam est en relation, je qualifierais, quasi parfaite avec Dieu. En autant qu'on peut être en relation humainement avec Dieu de façon quasi parfaite, on ne commet pas des êtres divins. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, le soufflant ses narines d'un souffle de vivant, et l'homme devint un être vivant. Donc, c'est assez de vous imaginer qu'il n'y a aucune perturbation à ce stade-ci entre lui et Dieu dans la relation. Nous, on lutte avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, à maintenir cette relation avec Dieu, à stabiliser notre relation avec Dieu, à développer une conception saine de qui Dieu est. Parfois, on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous, parfois qu'il nous a oubliés, surtout quand on est dans des moments d'épreuve, on a l'impression que Dieu disparaît. Il est où, Dieu, quand j'ai besoin de lui? C'est pas une relation qui est très limpide, qui est très facile, c'est pas instantané. Même le... tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tout ça, Dieu, est-ce que Dieu a tellement besoin d'amour? La réponse, bien sûr, ce n'est pas tant son besoin que le besoin que nous avons de nous relier à lui dans ce sens-là. Et à ce stade-ci, Adam est en relation idéale avec Dieu, une relation que nous, on ne peut qu'imaginer parce qu'on n'est pas dans cet état-là, bien qu'on soit sauvé, bien qu'on appartienne à Dieu. L'homme était en relation avec la nature de façon très harmonieuse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'image que j'ai, c'est bien sûr l'environnement naturel des choses. Ça peut sembler banal, mais je pense que si vous êtes fin observateur un peu de ce qui se passe dans la nature, vous apercevez que la relation entre la nature et l'humain n'est pas très harmonieuse. Pensez au plastique, pensez à la pollution, pensez aux problèmes climatiques, pensez... On a foutu... des problèmes partout dans la nature. Et comme vous connaissez l'adage qui dit que l'homme a besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin de l'homme. La nature, elle peut se suffire à elle-même, mais nous, on en a besoin. On est en train de saccager. L'image qu'on donne parfois, c'est que l'être humain saccage le jardin. Jardin d'Éden, comme si on avait été créé dans un environnement idéal, on est en train de tout... Encore, il faut voyager un peu. Là. Si certains de vous, vous avez voyagé, il y a des plages mythiques qui maintenant sont rendues des dépotoirs. C'est fou comment on aurait voulu délibérément détruire quelque chose. On n'aurait pas mieux fait. Donc, mais à ce stade-ci, Adam est en relation idéale avec son environnement, la nature. Il est en relation idéale avec son environnement, c'est-à-dire tout ce qui est autour de lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc, on quitte la nature pour la nature, on est dans le règne animal, il est en relation idéale avec ça, encore une fois, c'est harmonieux et tout cela. Et, constatation divine, Dieu se rend compte, après tout ce contexte très quasi parfait, qu'il manque quelque chose. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, sans le caricatural extrême, c'est comme si Dieu prend son divin doigt, se gratte le divin cerveau, puis se dit, oh, il manque quelque chose. L'ouvrage est parfait, un peu comme certains parmi vous qui êtes des artisans, quelque chose. Vous dites, ouais, mais il y a un petit quelque chose qui manque, là. Il y a quelque chose qui manque. Puis, Dieu se rend compte qu'en dépit du fait, et ça, c'est le point important pour nous, en dépit du fait, on peut être parfois en relation très bien avec Dieu. On peut être en relation harmonieuse avec tout ce qui nous entoure. Il nous manque parfois quelque chose. C'est la constatation divine et c'est la réponse de Dieu à cette dimension-là. Qu'est-ce que cela implique, cette notion de reconnaissance qu'il n'est pas bon qu'on soit seul? Ça implique que l'existence d'une autre personne, d'un autre, de l'autre, est nécessaire pour me faire exister. Je n'existe pas seulement par moi-même. Okay? Wow! Je peux vous expliquer cela? Est-ce qu'il y en a que vous avez des animaux de compagnie à la maison? Petit chat, petit chien, petit chat? Vous avez petit chat? Petit chat. Vous connaissez les chats?
Oui.
Combien ça prend de temps à un petit chat pour se passer de sa mère? Ça peut être sevré, là. Fini, là. Plus besoin de toi, maman, là.
3 semaines.
3 mois? 3 semaines, c'est peut-être un peu... Okay. Suggestion? 3 mois à peu près, OK. Ça prend combien de temps un petit être humain pour se passer de sa mère? C'est un gosse plus long, c'est ça? C'est un garçon, c'est un peu plus long, OK. Ça prend 3 mois, OK, pour un petit chat. On blague en regard à cela, parce que l'être humain là, est un être autrement plus sophistiqué qu'un petit chat, qu'un chien, qu'un cheval, un petit poulain, un petit bambi, un petit... bon. Et par contre, eux font des apprentissages beaucoup plus rapides. Ils n'apprennent pas à marcher, nous devons apprendre à marcher. Vous allez me dire, c'est parce qu'on est un bipède, je suis conscient de la situation, malgré que les singes se mettent à marcher un peu plus rapidement que nous, même s'ils sont à moitié bipèdes, pas à moitié quadrupèdes. Mais dans tout ce que nous sommes, notre apprentissage du langage, un enfant ne peut pas apprendre à parler tout seul. Okay? Si on ne lui montre pas, il n'apprendra pas. Tout son développement est rattaché à l'autre, maman, papa, à un environnement, sinon il ne se développera pas. Donc, même quand que vous, mesdames, vous accouchez, vous êtes super fiers de ce beau bébé, il y a tous ses morceaux, il y a tous ses orteils, tous ses doigts, tout ça, c'est super. Mais le travail, cette œuvre-là qui apparaît comme ça, à la vie humaine qui naît, tout ça, à ce nouveau monde devant lui, cette œuvre-là, si sublime elle est, c'est une œuvre inachevée. Cet enfant-là ne peut pas vivre, ne peut pas survivre tout seul, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique qu'on a besoin les uns des autres. Et que quand vous entendez quelqu'un dire « moi, je n'ai pas besoin de personne, je suis autosuffisant », c'est complètement faux. Il n'a pas pu s'accoucher lui-même. OK? Ça a pris quelqu'un d'autre. Il n'a pas pu naître de lui-même. Il n'a pas pu couper son cordon ombilical de lui-même. Il n'a pas pu apprendre à marcher de lui-même. Il n'a pas pu apprendre à parler de lui-même. Ça ne se fait pas. Mais il y a plus que cela. Parce qu'il y a aussi... est nécessaire pour nous faire exister. Exister, c'est plus que d'être là. OK? C'est de vivre cette existence-là, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc, les éléments rattachés à notre identité, ce que nous sommes, ce que nous aimons, nos aspirations, nos désirs, tout ce que nous sommes, tout cela provient d'une acquisition que nous avons faite avec le milieu environnant. Encore une fois, ça peut être un papa comme une maman. La majeure partie du temps, c'est avec, bien sûr, la mère. Parce que c'est elle qui est nourricière, c'est elle qui a porté cet enfant-là et tout cela. Donc, cela implique qu'on a besoin de l'autre dans la vie. Et évidemment, ici, je suis conscient qu'on parle du mariage. Et c'est la même chose au niveau du mariage. Étant, dès le départ, constitué, créé, mais constitué le mieux dans notre nature propre à nous relier, cela est la suite logique que de devoir se relier à quelqu'un d'autre autour de nous. Et la solution divine, elle est là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Même s'il était en relation avec l'environnement, les animaux, les oiseaux, tout ce qu'on peut imaginer dans le jardin d'Éden, idéalement, ça prenait quelqu'un pour être semblable à lui-même. Et ça veut dire que jusqu'à un certain point, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en connexion avec quelqu'un, j'ai utilisé le mot connexion, mais j'ai dévancé mes notes, là, parce que connexion, je vais en parler dans quelques instants, mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas relié à quelqu'un, il y a quelque chose dans notre vie qui va nous manquer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, cette phrase « il n'est pas bon que l'homme soit seul », je dis souvent que c'est le verset préféré des célibataires. Je suis d'accord avec ça, moi, qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Mais la réalité, c'est que c'est plus qu'une question, encore une fois, religieuse, qu'une question biblique, c'est une question humaine fondamentale. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez déjà observé chez vos adolescents ou vos adolescentes l'éveil de l'amour. Vous avez déjà été témoin de cela, OK? Je ne sais pas, moi, 10-11 ans, c'est « vierge, les filles, yeah, jamais ». Puis tout d'un coup, quelques mois passent, parfois quelques années passent, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éveille, OK? Et encore une fois, je vais y aller avec l'exemple d'un garçon qui s'éveille envers une jeune fille, il ne se dit pas « voilà, j'ai 14 ans, il est temps que je me réveille, là, OK? » C'est quelque chose qui est de l'ordre de sa croissance humaine normale. C'est quelque chose qui se développe. Il y a comme une horloge intérieur, on connaît l'horloge biologique, le développement physique. Il y a comme une autre horloge qui s'enclenche, qui fait en sorte qu'on s'intéresse à l'autre. Et tant aussi longtemps que ce problème, et je ne sais pas si certains de vous avez encore des souvenirs de l'adolescence, c'est une période à la fois excitante et une période à la fois angoissante. Parce que si l'autre, on ne le trouve pas, ou si l'autre ne s'intéresse pas, ou lorsque ça s'éveille avec quelqu'un d'autre, que l'autre n'est pas intéressé, il y a énormément de drames. Les premières peines d'amour sont vraiment les plus douloureuses de la planète. Donc, moi, je me souviens, j'avais 15 ans, la jeune fille, je l'avais aimée de façon imaginaire, je pense qu'elle ne l'a jamais su, OK? j'avais commencé à la fréquenter durant 2 semaines, et je pense que ça m'a pris 2 mois et demi à m'en remettre pour une aventure de 2 semaines qu'on appelait l'amour, qui n'était pas de l'amour du tout, c'était juste, on ne sait pas, c'est un mélange de quoi, là. Donc, voyez-vous, c'est tout ça. Pourquoi j'en reviens encore à cela? Parce que c'est les prémices du début d'une connexion qui va se faire et qui pourra, et dans notre cas, c'est ce qu'on croit, qui pourrait et qui devrait durer pour l'entièreté de la vie. Donc, je lui ferai une aide semblable à lui. Solution divine. L'Éternel Dieu forma de la terre de tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Je répète le texte. Mais pour l'homme, constatation encore une fois, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Certaines femmes disent qu'ils ne sont pas réveillées depuis ce temps-là, mais ça, c'est une autre histoire. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, là, on voit le début de la création. Et quittez l'image un petit peu, encore une fois, bucolique, de l'image, encore une fois, de la femme qui est tirée de l'homme, il prend une de ses côtes et tout ça. D'ailleurs, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'un bon soir, après que Ève et Adam étaient ensemble, que lorsqu'Adam, Adam était parti depuis quelques jours, puis il est revenu à la maison, quand il s'est endormi, Ève s'est mise à compter les autres côtes de l'autre côté pour être certain qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. OK. La réalité est que c'est quelque chose qui fait partie de notre nature, de notre constitution. Nous sommes partis prendre l'un de l'autre. Et quitter l'image, encore une fois, très physique de cela, l'image, elle est beaucoup plus spirituelle, elle est beaucoup plus émotionnelle, elle est beaucoup plus psychologique. On nous demande d'ailleurs, voilà pourquoi, lors d'un divorce, c'est tellement douloureux, parce que c'est une rupture. Mais c'est plus qu'on était ensemble, on n'est plus ensemble. Il y a quelque chose qui s'est déchiré à l'intérieur de nous. C'est la même chose au niveau de la perte. La perte de notre chair, par la mort, par exemple, par la maladie, tout ça, ça dépasse la raison, ça dépasse le raisonnement. C'est beaucoup plus profond que cela. Voilà pourquoi, encore une fois, il y a des gens qui vont sombrer suite à une peine d'amour, il y a des gens qui vont sombrer suite à un divorce ou une rupture amoureuse, ou ils vont sombrer. Moi, j'ai encore l'image gravée à jamais quand mon père est décédé, l'image de ma mère. Je suis ticu à la maison, excusez-moi l'expression, là, autour de la table, puis ma mère, elle dit, les garçons, si vous n'étiez pas là, je me laisserais mourir. Je ne peux même pas m'imaginer vivre sans votre père. Okay? Puis à d'autres occasions, elle disait, je ne vis pas pour manger, moi je ne mange que pour vivre, juste pour vivre, je me tiens en vie, tout ça. Donc on voit que la déchirure, la blessure profonde. Mais comprenez-vous que c'est plus que, je me répète encore une fois, c'est plus qu'on est ensemble et on n'est plus ensemble. C'est plus qu'un déplacement dans l'espace, OK? Il était là, il n'est plus là. C'est que dans la relation qui se crée entre un homme et une femme, on s'absorbe mutuellement. On développe des caractéristiques, OK? Et ça, c'est relié au fait qu'on est de plus en plus en lien, en connexion avec l'un avec l'autre. Êtes-vous toujours avec moi? Connexion. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Je n'irai pas en détail sur ce texte-là parce que ça va faire partie de ma troisième intervention cet après-midi, en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi. Mais regardez, déjà, vous voyez un petit peu le contexte. Quitter, s'attacher, devenir. 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 Et le texte dit devenir une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Ici, donc, lorsqu'on parle de quitter, s'attacher, on parle de la création de quelque chose. Je vais utiliser un terme que j'appelle connexion. Mais connexion, là, c'est plus qu'un branchement. Là. J'ai branché dans la prise électrique. C'est quelque chose dans lequel il y a un échange mutuel qui se fait. Moi, je l'ai observé vraiment, je l'ai expérimenté et observé dans ma propre vie. J'étais marié la première fois avec la mère de mes enfants durant 31 ans. Okay? Quand elle est décédée et que ça s'est terminé, c'est pas parce qu'elle n'est plus là qu'elle n'est plus là. Vous savez, ceux qui ont vécu quelque chose semblable à moi, là, pendant des mois et des mois, elle est encore là. Je sais rationnellement, j'ai assisté aux funérailles, j'ai fait la mise en terre. Bon, je sais qu'elle n'est plus là. Je sais bien qu'elle n'est plus là. Je ne suis pas nul. Mais comment ça se fait que le sens de sa présence est encore là? Comment ça se fait qu'on compose dans la vie comme si elle était toujours là? Voyez-vous? Et c'est avec le temps et les années que tranquillement, sa présence va, c'est un peu comme quelque chose qui s'évapore, un peu comme une odeur qui s'en va, comme un parfum qui finit par disparaître. Okay? Je me souviens un soir, je suis en Suisse, ça fait peut-être 2 ans qu'elle est décédée, je suis en train de faire des conférences, puis le soir, je m'endors, et dans la nuit, j'ai rêvé à ma femme, et c'était tellement fort que j'étais convaincu qu'elle était dans la chambre, et quand je me suis réveillé, vous m'auriez dit que j'ai rêvé qu'elle était morte, mais qu'elle est toujours vivante, je vous aurais cru. OK? Pour vous dire comment c'est fort, là. Donc, ça veut dire qu'on commence à s'habiter l'un l'autre. Voyez-vous? Maintenant, c'est dur pour moi de vous convaincre de cela, parce que vous êtes tous ensemble, mais le jour où il y a cette distance qui se crée par la perte, on s'aperçoit qu'on est habité. Et je le revis aujourd'hui. Bon, maintenant, je pourrais vous dire, sans être désobligeant, c'est un peu comme si j'ai fini par sevrer ma première femme, dans le sens qu'elle a fini par, mais pas totalement, bien sûr, parce que c'est 31 ans. Et là, je suis remarié. Et dans cette nouvelle connexion qui s'est construite depuis 5 ans et demi maintenant, je m'aperçois que je suis changé aussi. Je suis changé dans ma façon de voir, je suis changé dans ma façon de réagir. Et les deux, on se transforme mutuellement. Voilà pourquoi je dis souvent, le mariage transforme ou le mariage déforme, mais il ne laisse pas personne conforme. Vous me suivez? Il y a des gens qui sont déformés dans un mariage parce qu'ils se blessent mutuellement, parce qu'ils se négligent mutuellement, parce qu'ils ne prennent pas soin. Donc, ça éveille les aspects les plus négatifs de la nature d'une personne. J'ai vu des gens en entretien, en consultation, déformés complètement. Parce que je ne sais plus ce que je pense, je ne sais même plus ce que j'aime. Il m'a absorbé, il m'a vampirisé. J'existe plus, j'ai plus de personnalité, moi, là, voyez-vous. Alors, ça a été comme trop tout ça. Et je vous amène ça pas de façon caricaturale pour que vous réalisiez que, dans le fond, on doit contribuer à quelque chose dans la vie de cette personne-là avec qui on est. Okay? Ça doit faire de nous une personne avec une version améliorée de ce que nous sommes. Je suis plus avec elle et avec lui que je ne serais si j'étais tout seul. Et je vais aller un peu plus loin que cela. Si vous êtes célibataire, je ne sais pas si tout le monde est marié ici ou s'il y a des célibataires, en tout cas, vous êtes célibataire? Je dis souvent, mais ne soyez pas offensé à ce que je veux dire, monsieur. Je dis souvent, vous avez déjà été marié? OK, bon, ça ne s'adressera pas à vous. Une personne seule n'est jamais aussi transformée qu'une personne mariée. C'est impossible seule de développer un altruisme, à moins d'être en relation avec quelqu'un d'autre, là, dans le sens avec, ou avec des enfants, ou avec, dans un milieu de travail, quoi que ce soit. Mais même là, il y a des limites, parce que la relation matrimoniale, c'est une relation la plus proche que deux êtres humains ont ensemble, plus que quoi que ce soit d'autre. Mais une personne seule n'est jamais aussi transformée qu'une personne mariée. Okay? Un couple marié sans enfant n'est jamais aussi transformé qu'un couple marié qui a des enfants. Okay, mais ne soyez pas offensé si vous n'avez pas d'enfant. Je suis en train de me disputer avec vous. Je suis en train de vous dire, dans la multiplicité des interactions qui se passent, okay, ça ne peut pas faire autre chose que nous changer, nous transformer. Et certains de vous, si vous avez un couple d'amis qui n'ont pas d'enfants, okay, vous vous apercevez qu'ils sont hyper ritualisés. Ils ont toutes les petites manies, les petits bibelots, les petits machins, les petits animaux, etc. Mais ils n'ont jamais le temps non plus. Tu as deux, trois enfants, là. OK, c'est beaucoup moins compliqué. Tu as toujours le temps parce que tu as appris à ne pas être rigide dans ton horaire. Il y a tellement d'imprévus avec des enfants que si tu es moindrement rigide, mais il y a quelque chose qui va sauter quelque part. Donc, on apprend à s'assouplir. Le deuxième de mes fils, sa femme est enceinte en ce moment. Il y a eu un premier enfant. Et son premier enfant, là, ça a tellement cherché, ça a éveillé énormément d'anxiété à l'intérieur de lui. OK? Puis nous, son frère aîné, puis moi, on souriait en quoi, on a dit, on a tous passé par là, tu vas t'en remettre, là, OK? Et à partir du moment de l'accouchement, il s'est mis à capoter. Il n'y a pas en termes de santé mentale, en termes de, je fais quoi avec ça, comment je fais, comment ça se fait que ça se réveille la nuit, comment ça se... Pourtant, il y a eu des petits frères, il savait ça. Et là, après, le petit, quand l'ange, là, il s'appelle Zachary, bébé Zach, il a un an et demi. Et là, sa femme est enceinte, puis là, il est hyper relax. Pourquoi? Parce que ça l'a transformé. Ça l'a décentré sur lui-même. Il a compris que ce petit être qui était là, ce n'était pas un fardeau, c'est un cadeau à quelque part. Surtout, il est adorable. Donc, voyez-vous la transformation qui prend place? Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas résister justement à cette transformation-là. Mais on va revenir au thème connexion. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Les premières fois que je lisais ce texte-là, je me disais, mais c'est quoi l'affaire, là? OK, je comprends, il devient une seule chair, maintenant, point. Okay, mais pourquoi, après ça, il parle de la nudité, puis il parle de la honte? Qu'est-ce que ça vient faire dans le texte? Vraiment, c'est le dernier verset de Genèse, chapitre 2, et on a l'impression que c'est un peu hors sujet. Souvent, d'ailleurs, vous avez remarqué dans les Saintes Écritures, on a l'impression parfois que ça change vite de sujet, là. Il s'en va où? Parce qu'on ne prend pas le temps d'approfondir les choses. Et on va aller dans ce sens-là. Le sens de connexion. Le sentiment ou l'impression profonde de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Donc, quand on est connecté, là, quand je suis connecté avec Dieu, quand je suis connecté avec les autres, c'est quelque chose qui me dépasse. parce que je ne suis pas complet à moi-même. C'est quelque chose qui m'amène à un niveau supérieur. C'est ça le sens de connexion. Alors, il y a des gens dans la vie qui ne sont pas du tout connectés. Ils sont des espèces d'atomes perdus dans l'espace et tout ça. Il n'y a pas ce sens de connexion dans l'enseignement. Sur le plan plus humain, c'est le sentiment d'être proche de quelqu'un ou d'un groupe, de se sentir bienvenu, d'appartenir, d'être compris et accepté. C'est plus que d'être dans une salle avec des personnes. Donc, le plus bel endroit, je pense, pour être connecté, c'est probablement une église. Mais l'église, ce n'est pas le local. L'église, c'est les gens. Jésus n'a jamais voulu se faire bâtir des cathédrales. Il a voulu se construire un peuple. Et non, pourquoi je dis que nous, on est privilégiés de cette connexion-là? Parce qu'on est premièrement en connexion avec Dieu et on est mutuellement en connexion avec Dieu. Voyez-vous? Certains d'entre vous qui avez eu l'occasion d'aller dans d'autres pays, de rencontrer d'autres chrétiens, de d'autres cultures, c'est fou comment cette connexion-là prend un sens. Okay? Parce que même ça dépasse le langage, ça dépasse la culture du peuple, du milieu dans lequel on est. À partir du moment où on sait qu'on est chrétien, il y a déjà une connexion qui se fait. Okay? Qui dépasse un peu les relations humaines. C'est plus large que ça, c'est plus transcendant que ça. Okay? Donc, voilà pourquoi je me dis, il faut que l'Église reste une Église. Il ne faut pas que l'Église devienne un lieu où on se rassemble, les bras croisés, à écouter une performance en avant. Il faut que ça soit relationnel. Donc, si on revient au mariage, c'est le même principe. En fait, vous pouvez être dans l'Église ici, sans être connecté avec personne, et vous pouvez être marié sans être connecté avec la personne. Fait que vous êtes comme deux colocs qui vivent ensemble. Vous pouvez même dormir ensemble, vous pouvez même faire l'amour ensemble, puis qu'il n'y ait pas de connexion. Parce que dans la connexion, il y a un échange. C'est comme un boyau, un tuyau d'approvisionnement dans lequel il y a quelque chose qui circule entre deux personnes. Êtes-vous toujours là? On va aller un peu plus loin. Parce que la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on peut parfois ne pas se sentir connecté? Qu'est-ce qui fait qu'à quelque part, on peut se déconnecter, mais comment se fait à quelque part, parfois même chez un mariage, on ne sent pas que cette... quand je parle de connexion, n'oubliez pas que le but, c'est « ils deviendront une seule chair ». Une seule chair, ce n'est pas qu'on devient cloné l'un l'autre, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose de mutuel dans notre relation qui est assez fort. Deux enjeux rattachés à la connexion. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Ah, là, je récupère le texte. Selon vous, que symbolise... C'est quoi la honte, selon vous? Qu'est-ce que le mot « honte » vient faire là? Et quel lien avec la honte? Pourquoi la honte apparaît? D'ailleurs, c'est la première émotion qui est citée dans les Saintes Écritures. Puis en plus de cela, elle est citée parce qu'elle n'est pas là. Le texte dit que tous les deux n'avaient point honte. Pourquoi on parle de quelque chose qui n'est pas là? C'est quoi la honte pour vous? Quelqu'un peut se risquer? Dans vos mots. Oui.
Ça parle de questions d'intimité qui était vraie,
oui.
qui était pas superficielle.
OK. C'est quoi la honte? Quelqu'un peut me définir ce qu'est la honte?
Pas s'aimer trop trop.
Pas s'aimer trop trop? OK.
Le sentiment de ne pas faire correct.
Le sentiment de ne pas être correct? De ne pas faire correct?
De pas être correct,
OK. Pouvez-vous pousser un peu plus, si vous avez raison, allez un peu plus loin. Honte. Pourquoi? Qu'est-ce que le jugement attaque?
Intégrité
dans quel sens? Notre nature. OK. Donc, OK. Donc, voyez-vous, là, qu'à partir de la honte, on commence à se rapprocher de notre nature. Autre suggestion sur la honte. Qu'est-ce que la honte? Hein? Je comprends votre phrase, mais pour que la honte soit de la honte, il faut que ce qu'on n'a pas de découvert soit quelque chose de négatif.
Ouais.
En ce sens-là, oui. 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 Autre chose. Oui. OK. Et ça vient d'où, ça, la honte? Restez humain, là. Ça vient d'où, là? Ça apparaît quand, ça, la honte? Est-ce que les petits bébés qui viennent au monde, là, tout nus, tout roses, là, ils sont sont honteux, sont pleins de honte.
Ça commence à être en relation.
Hein? Oui, OK. Avec quel âge? Okay. C'est un bel effort, mais ça rentre plus. Ça rentre plus tôt que ça. Ça rentre plus tôt que ça. Puisque là, tu es à l'âge de la raison qu'on appelle un peu quand on commence à discerner les choses. Vas-y, derrière. Oui. Mais ça provient d'où, ça? Oui, oui, je sais que c'est dans la nature humaine, mais qu'est-ce qui provoque ça? Hein? OK. Le regard de qui? Ça commence par qui, ça?
L'autre.
C'est qui, l'autre? Ça commence par quel autre?
La mort.
La femme d'à côté.
OK. J'ai vu, tu vois une main. C'est toi? Mets-la dans tes mots. C'est pas... La conscience de soi. La conscience de soi. Donc, tu me faisais ça un peu vite. Répète-moi ça, là.
On se porte un jugement sur nous-mêmes, ouais. Et on projette ça sur...
On pense que les autres pensent... OK. Ah, c'est intéressant. OK. La honte, ça naît dans la nature... Ça s'éveille dans la nature humaine vers l'âge de... un an, peut-être, à peu près. Peut-être un petit peu plus. OK? Vous savez tous qu'on vient tous au monde, tout nu, puis on n'a pas honte. OK? La honte provient du fait qu'il y a un message de l'extérieur. La honte est une émotion sociale. C'est-à-dire qu'on découvre la honte par le regard que quelqu'un porte sur toi. Le pasteur vient faire un tour à la maison et le petit sort du bain tout nu, le zizi en l'air, chose, puis il court partout dans la maison pour faire des blagues, OK? Puis ça me dit, faut te cacher, là, que c'est quoi ça? OK? En anglais, on dit shamer. Elle vient de shamer. Il ne faisait rien de mal. Ce n'était pas un exhibitionniste. Ce n'est pas un déviant sexuel. Là, lui, tous les enfants ont fait ça dans leur vie. Ils courent tout nus, ils sont heureux tout nus. Bon, mais maintenant, à l'adolescence, on a notre paire de manches. Là, mais à un an, deux ans, là, comprenez-vous que ce n'est pas si grave que cela. Il faut contextualiser tout ça. Donc, l'émotion commence à naître là, dans laquelle on sent le regard des autres sur nous et on s'approprie ce regard-là. Voilà pourquoi ta question de jugement elle était intéressante à ce niveau-là. Parce que le jugement éveille. Quelqu'un dit un jour... J'ai peur de vous dire qui je suis. Parce que si vous n'aimez pas ce que je vous dis de qui je suis, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que qui je suis. Okay? Maintenant, c'est intéressant, parce que vous savez que plus tard, après la chute d'Adam et Ève, Adam et Ève vont faire quoi? Ils vont se couvrir. Mais en fait, c'est juste une manifestation psychologique des masques que nous portons pour nous protéger parce qu'on se sent vulnérable au regard des gens. Et c'est une métaphore de cela. C'est pas parce qu'il était tout nu physiquement, le Dieu, il voulait pas voir des zizi, puis il voulait pas voir des... OK? D'ailleurs, c'est eux qui se sont couverts. Et Dieu les a recouverts après, là, avec les vêtements de peau. Mais voyez-vous, c'est un petit peu cette dimension-là. Donc, la honte, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment d'être visible. Et quand je parle de ne pas être à la hauteur, pas tant dans le verbe faire, dans ce que je suis. Quelqu'un a dit un jour, la honte, c'est l'émotion qui éprouverait une chenille quand toutes ses amies se changent en papillon, puis elle reste une chenille. Vous voyez l'image? C'est le sentiment d'être disqualifié, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment de manquer, le sentiment d'être inférieur, le sentiment... c'est vous, quel est le verbe que nous conjuguons dans la honte? C'est le verbe « être ». Quand je ne suis pas ce que je devrais être, me sens honteux. Quand je suis ce que je ne veux pas être, je sens honteux. Quand Pierre a renié Jésus, comment il fait? C'est pas juste quelque chose de mal qu'il a fait. C'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait ça. Ouais, il ne peut pas l'accepter. Et puis c'est pas Jésus qui l'a. Parce que quand il a revu Jésus, après coup, vous voyez ça dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, Jésus lui a fait aucun reproche. Il a juste posé trois fois la question, « Pierre, m'aimes-tu? » d'ailleurs, c'est un texte que je travaille beaucoup, j'aime beaucoup, parce que je me pose toujours la question, c'est Pierre qui a dû poser la question à Jésus. « Jésus, est-ce que tu m'aimes encore? » Après ce que je t'ai fait, là... Okay. Donc, la réalité, c'est la honte, c'est que c'est plus que des gestes. La plupart des gens aussi ne font pas la différence entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, le verbe à conjuguer, c'est le verbe « faire ». Quand je fais quelque chose que je ne devrais pas, je me sens coupable. Quand je ne fais pas quelque chose que je devrais faire, je me sens coupable. Mais la honte, c'est le verbe « être ». Mais il y a plus que ça. La honte, c'est une émotion qui est visuelle. Visuelle? Ah ouais. Quand est-ce qu'on se sent honteux? C'est quand on est visible. On n'est pas prêt à être visible. On ne veut pas être vu. OK? Regardez les expressions en français. C'est beaucoup rattaché aussi à la dimension de l'orgueil, dans le sens que un jour, je suis à Nouvelle-Vie, et c'était à l'époque où on était costard, cravate, souliers vernis, à l'époque de nos habits de curé. Là. On était tous toujours bien cravate et tout ça. Et j'arrive un dimanche matin, c'est l'hiver, et je marche dans la halle de l'église pour rentrer dans l'église, et il y a un petit peu d'eau, un mouton de neige à terre. Les deux pieds m'ont parti, puis devant tout le monde, je me suis écrasé sur, OK? Et là, la sécurité arrive, pasteur Denis, ça va, vous n'avez pas fait mal? Oui, je suis mal. Ou mon orgueil vient d'en prendre un coup. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui fait mal? C'est que tu es visible devant tout le monde, OK? C'est comme avoir, pour un prédicateur, de prêcher la braguette béante. Tout le monde le voit, mais lui, il ne sait pas. C'est pour ça qu'on a tous des rituels, là. Je ne sais pas si ça se passe. Nous, on a des rituels. OK, tout le monde, OK, on vérifie que la cravate est... Bon. On est visible, puis on n'est pas toujours prêt à être visible. OK? Puis je reviens à ton self-awareness. Il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont visibles. Vous avez tous vécu le moment où vous êtes dans un feu rouge, dans la circulation, puis le gars dans la voiture à côté, il se joue dans le nez jusqu'au coude. OK? Il ne sait pas, lui, que tout le monde le voit, là. Il ne sait pas, là. OK? Parce qu'il n'est pas assez aware de lui-même. Il n'est pas assez conscient de lui-même. Mais en règle générale, chez les gens honteux, la conscience elle est trop forte, qui fait qu'à quelque part, le regard que les autres posent sur eux est toujours hyper inconfortable. Donc, et bien sûr, il y a deux hontes. Il y a une honte qu'on appelle toxique, qui détruit l'humain. Je l'appelle le cancer de l'âme. Puis il y a une autre honte qui est un peu normale. Quand c'est juste un petit orgueil qui est touché, là, ça nous permet de nous garder simplement humble, humain. Tu es juste un être humain, tu n'es pas plus que ça. Arrête de te prendre pour Dieu, tu es juste un être humain. Ça, c'est une honte normale. Donc, ici, la honte, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et la nudité, c'est la peur de nous montrer tel que nous sommes. Vulnérabilité. OK? Vous donner une illustration de cela, on va y aller au niveau de l'amitié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en relation avec des amis ou avec quelqu'un qui est un ami, vous considérez comme un ami, mais dans le fond, vous n'avez jamais accès à qui elle est, cette personne, réellement. C'est comme un peu en sens unique. Vous y racontez des choses, mais quand vient le temps d'avoir... et toi, qu'est-ce que tu penses? Elle répond toujours comme un politicien, on répond toujours avec une certaine marge de malheur. On n'a pas accès. OK? Qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est que ça affecte la relation. Pas dans le sens qu'il y a des conflits, dans le sens que la connexion, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est la personne fondamentalement de l'autre côté. Elle peut savoir qui je suis, mais moi, je n'ai pas accès à qui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de caché. Parce qu'on se sent vulnérable. On porte des masques, on projette des images parce qu'on ne veut pas que les gens aient accès à ce qui se passe en arrière de soi. Bon, au niveau des amitiés, pas si grave que ça, dans le fond, parce qu'une amitié, ça naît, ça meurt, puis ça se reconstruit ailleurs avec d'autres personnes. Tout au long de notre vie, c'est très rare qu'on va garder des amitiés pendant 50 ans. Là. Ça arrive, mais c'est pas assez courant. Mais qu'est-ce qu'elle est quand c'est dans le mariage? Ça affecte la qualité de la connexion et de la relation. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'il y a d'autres personnes. Je ne sais pas réellement. Et le seul moyen de contrebalancer cela, c'est de se relier et davantage communiquer et de laisser tomber des masques et d'être vulnérable. Vulnérable? Est-ce que c'est évident d'être vulnérable? Non. Mais c'est un signe de santé. Parce qu'à ce moment-là, on a accès à la personne telle qu'elle est réellement, et non pas, on n'est pas marié avec une image de quelqu'un. Okay? D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que lorsque vous vous fréquentiez, vous ne sortiez pas avec votre mari ou votre femme. Vous sortiez avec une image de votre mari et de votre femme. Et laquelle image a été revue après le mariage? « Oh, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ceci. » Pourquoi? C'est pas parce que vous étiez faux, c'est parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut découvrir de quelqu'un d'autre durant une fréquentation. Là. Puis entre vous et moi, d'accord avec vous qu'on ne se met pas à monter nos défauts durant nos fréquentations. Hein? Sinon, l'autre va fuir. Donc, on projette l'image de la meilleure version de soi-même. OK? J'étais allé de la Réunion il y a quelques semaines, vous voyez juste ma couleur, et ma femme m'a dit, viens, je vais repasser devant mon ancien appartement, où je l'avais logé. Wow, ça a changé de quartier, tout ça. Je dis, je vivais là, ça, c'est le deuxième étage, là, wow, tu te souviens? Ouais, je me souviens, chérie. Elle dit, tu te souviens, tu étais parti de chez Bertrand en courant. Bertrand, il reste à la montagne, c'est-à-dire c'est à peu près 8 km. J'ai fait ça en jogging pour aller rejoindre ma dulcinée. Elle dit, ça a changé, hein? Ce que tu étais prêt à faire pour me gagner à l'époque. Bon, chérie, on peut changer de sujet, s'il te plaît. Là, okay. Mais l'image, c'est que tu voulais me gagner. Hein. Pourquoi là tu prends du poids? Pourquoi là tu... Ben, chérie, c'est à cause de toi que je prends du poids. Tu fais tellement bien à manger que je n'ai pas le choix de... Mais l'image, c'est que voyez-vous, on projette toujours, puis c'est cocasse, puis on a tous vécu ça, puis on le fait tous dans certains moments. Mais aller dans le mariage, que là, on a affaire à... Et c'est normal que ça soit comme ça, qu'après le mariage, il y ait cette ouverture à l'autre progressivement, de façon à ce qu'on sait avec qui. Et c'est vous ce qu'on découvre. Avec l'ouverture et la vulnérabilité, on ne découvre pas le côté le plus sombre de l'autre personne. Parce que derrière le côté sombre, les défauts, là, il y a quelque chose d'autre derrière. C'est encore plus beau. Voyez-vous? Mais tant qu'on ne veut pas y aller, ou tant qu'on ne permet pas à l'autre de venir là, on reste comme deux univers séparés. On vit ensemble. Ouais, bon. Regardez bien la prochaine image, la prochaine représentation. Oh, excusez-moi, juste j'ai sauté une part. Donc, la honte de la nudité. Deux aspects de la connexion ultime. L'intimité. Qui a prononcé le mot intimité tout à l'heure? C'est toi, hein? Le sentiment de complétude lié à la proximité avec l'autre. Bon, peut-être que vous n'êtes pas habitué avec le mot complétude. Mais c'est un super de mot, complétude. C'est un mot français, je ne l'ai pas inventé. Là. Ce que j'aime du mot complétude, c'est le sens d'être complet, le sens d'être entier. En fait, le vrai mot, tu as utilisé le mot intègre tout à l'heure, l'intégrité, là, c'est plus que l'intégrité morale. La racine du mot intégrité, c'est entier. C'est quelqu'un qui est complet. Quelqu'un qui est intègre, en fait, c'est quelqu'un qui est non fissuré, non affaibli, non... par exemple, les ingénieurs vont parler de l'intégrité d'un matériau. OK? En ce moment, je voudrais vous annoncer que le pont Champlain n'est pas intègre. On ne sait pas s'il va tomber ou non à un moment donné. Ils sont toujours en train de le repatcher. Le nouveau, ça va être différent. Donc, on va parler d'un bâtiment qui dont la structure, OK, est faite à partir de... Parce que ça doit supporter un poids. OK? Et donc, c'est le sentiment de complétude, c'est le sentiment d'être complet. Et j'aime le mot complétude parce que c'est comme une espèce de fusion entre plénitude et être complet, le sens d'un tout. Vous vous rappelez ce matin, quand on a parlé du bonheur, on a dit il y avait dans le cœur humain à l'origine, il existait ce bonheur-là, mais que maintenant, il laisse une trace toute vide. Quand on n'est pas avec l'autre, mais qu'on est bien attaché, dans le sens pas attaché, là, dans le sens de bien lié, quand l'autre n'est pas là, il nous manque quelque chose. C'est devenu une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est un signe que l'intimité s'est créée. Voyez-vous? L'année passée, au mois de mars 2018, j'étais parti un mois en France. Au cours des circonstances et tout ça, ma femme était restée au Canada. Et quand je suis revenu, j'ai dit, plus jamais je repars un mois à moins que tu sois avec moi. Parce que quand je suis revenu, là, on s'est pas perdu, il n'y a pas eu de conflit. Il y avait quelque chose qui a dû se reconstruire, se rebrancher. Encore une fois, imaginez rien, là, il ne s'est rien passé de mal, on était content de se voir, mais on n'est pas fait pour vivre l'un sans l'autre. Okay? Maintenant, quand je pars maximum 10 jours, et on se parle à tous les jours, de façon disons, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais un mois, c'était trop long. C'était trop long, pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Puis encore une fois, je ne parle pas de dépendance, je parle de qualité de relation et de qualité de connexion. Donc, la connexion ultime est possible grâce à l'intimité. Et aussi, il y a un second bénéfice à cette connexion, c'est l'identité, le sentiment de plénitude lié à mon individualité. Je suis à partir de l'autre. Je suis à partir de l'autre. J'existe à partir de l'autre. Je ne suis pas juste moi. L'être humain, son identité ne l'appuie pas simplement dans la relation avec lui-même. Il l'appuie dans sa relation avec les autres autour de lui, dont, entre autres, sa femme ou son mari dans le cadre du mariage. Okay? Ça nous définit ça aussi. Ça va? Regardez bien les prochaines images. Regardez, les mariages modernes ressemblent à cela. Les gens sont ensemble, ils ont deux vies en parallèle. Ton gym, mon gym, t'es sorti, mes copains. tes soirées, mes soirées. Il y a des mariages qui sont fusionnels, c'est juste un petit peu trop. OK, on boit dans le même verre, on mange dans la même assiette, puis on se lave dans le même eau. Pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour l'intimité. C'est pas nécessaire. Tant mieux si vous avez un jacuzzi, là, pas de problème à ce niveau-là, mais pour le reste, vous pouvez avoir un minimum d'autonomie. Mais le véritable mariage équilibré, c'est que... Puis regardez bien, là. On a la zone de superposée du centre, OK? C'est ce que nous sommes ensemble. C'est notre identité commune ensemble. Voici ce que nous sommes devenus. Une seule chair. C'est notre seule chair, elle est là. Une seule chair, elle est là. Mais ça ne se paie pas dans je ne paie pas ma nature et mon individualité. OK? Le but du mariage pour une femme n'est pas de faire son mari une femme. Et le but du mariage pour un homme, c'est pas de faire de sa femme un homme. OK? C'est pas ça que ça sert. Ça sert à nous compléter mutuellement à partir de nos différences mutuelles, en respectant ça. Et croyez-moi, c'est là qu'est le grand, grand, grand défi. Parce que nous, les gars, on pense comme des gars. Puis vous, les filles, vous pensez comme des filles. Puis il faut harmoniser tous ensemble. OK? Ce qui n'est pas évident. Mais c'est là que l'équilibre se crée, parce que c'est là que la complétude. On est complet ensemble. C'est une valeur ajoutée. J'ai un plus dans ma vie qui s'appelle ma femme. Il y en a un plus dans sa vie qui s'appelle moi. Êtes-vous toujours là? On continue? Trois dilemmes avec l'identité. La quête de mon identité, ce que je suis en tant qu'homme ou en tant que femme. Et certains d'entre vous, vous devez réfléchir, parce que peut-être vous avez perdu votre identité. Et peut-être que votre mari ou votre épouse vous a fait perdre votre identité. Et si vous entendez ma voix en ce moment, n'endurcissez pas vos cœurs. Entendez ma voix, dites, écoute, peut-être que j'ai besoin de laisser un peu plus d'espace à ma femme. Ma femme, ce n'est pas mon enfant. Ou l'inverse, mon mari, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas là. Je ne suis pas là pour gérer sa vie au complet. Il faut se garder un minimum d'autonomie. Et ça va avec la sécurité. Vous êtes on n'est pas propriétaires l'un de l'autre. On travaille ensemble, on coopère ensemble, on vit ensemble. Il faut que ça soit volontaire. Et le problème dans les mariages chrétiens, vous savez qu'est-ce qu'il est? C'est qu'il y a plein de chrétiens qui ne sont mariés, qui ne restent mariés seulement parce qu'ils ont peur de Dieu. Parce que s'ils n'étaient pas chrétiens, ils ne seraient plus mariés. Ça veut dire que le mariage, c'est un mariage d'obligation, c'est pas un mariage d'amour volontaire. Je suis tellement bien avec toi. Donc, un jour, ils se sont mariés, puis ils sont attachés ensemble, OK, par des fils barbelés, OK, on ne peut plus se quitter jusqu'à la mariage, c'est pour la vie. OK, et à chaque fois que j'explique ça, les gens me disent, ouais, vous êtes pour le divorce, pasteur? Je ne suis pas pour le divorce. Absolument pas. Le divorce, c'est un peu comme vous direz, est-ce que vous êtes pour... Et quelqu'un me pose des fois la question, est-ce que vous êtes d'accord avec la dépression? Ce n'est pas une question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, c'est là. Ça fait partie de situation de vie de personne. Donc, le divorce, ça arrive. C'est pas parce que les gens veulent que ça arrive. Il n'y a pas personne qui se marie qui se dit, tout ça ne marche pas, là. Je divorcerai, moi. Le jour du mariage, jamais personne ne pense comme ça. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose après coup, dans la découverte de l'autre, ou dans les mauvaises actions, les mauvais agissements, les blessures, qui fait que quelque part, j'envisage une sortie pour m'en sortir. Maintenant, le plan de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un mariage tout croche, de gens qui sont attachés ensemble par des barbelés? Ou d'avoir une vie pleine d'amour dans laquelle on est complice, dans laquelle on s'épanouit ensemble, dans laquelle on est heureux ensemble? Mais Dieu n'a pas créé le mariage comme une peine de pénitencier à perpète. C'est une vie à deux dans laquelle on s'épanouit, on est bien ensemble, puis, vous voyez? Des fois, il y a des personnes célibataires qui viennent me voir et me disent, « Pasteur Denis, on se fréquente, on voudrait se marier. Le seul problème qu'on a, c'est que ça ne marche pas. On voudrait que vous nous aidiez à rendre notre vie harmonieuse avant le mariage. » Puis je leur dis, « No way. Pas question. Je ne cherche jamais à sauver une fréquentation. » Vous savez pourquoi? Parce que le but de la fréquentation, ce n'est pas de se marier. Le but de la fréquentation, c'est de savoir si on est fait pour se marier l'un avec l'autre. Fait que si elle démontre la fréquentation que ça ne marche pas, c'est qu'elle fait le travail qu'elle doit faire. Elle a démontré quelque chose. Ou elle va démontrer que, waouh, on est tellement bien ensemble qu'on veut passer notre vie ensemble. Et non pas, ça va pas, mais en tout cas, peut-être que ça va s'améliorer quand on va être mariés. Quels sont ceux qui croient que ça n'ira pas s'améliorer avec le mariage? Le mariage, là, ça ne résout pas des problèmes. Vous savez ce que ça fait, le mariage? Ça en crée des nouveaux qui n'étaient pas là. Comme je disais aux frères, le mariage sert à résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on était resté tout seul. OK. Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire en sorte que tout ça devienne harmonieux. Alors, pour ça, je vous dis des fois, là, je vous le dis, j'ouvre mon cœur. Parfois, c'est plus facile de travailler avec des non-chrétiens parce qu'ils ne sont pas enveloppés d'un langage spirituel qui devient un écran de fumée devant la réalité de ce qu'on devrait percevoir. Okay? Je suis contre le divorce. Ce n'est même pas que ce soit cool ou contre le divorce. Ma vraie question, c'est que tu aimes ta femme au point de donner ta vie pour elle. C'est ça qui est la véritable question de fond. Voyez-vous? Et même chose pour l'inverse. Donc, il faut retourner à ces paramètres-là. Donc, la quête de mon identité, ce que je suis en tant qu'homme ou en tant que femme, la quête de notre identité, ce que nous sommes en tant que couple. Il n'y a aucun couple qui est semblable à l'autre. Ça ne se clone pas. Donc, vous créez votre propre mariage, c'est-à-dire votre propre, permettez-moi l'expression, projet matrimonial à partir de ce que vous êtes réellement. C'est une concoction que vous faites, c'est une création, votre mariage, c'est votre création. Donc, si votre mariage va bien, bravo, vous avez bien travaillé. Si votre mariage bat de l'aile, vous devez regarder qu'est-ce qui ne marche pas pour faire les ajustements et les correctifs nécessaires. La préservation de notre identité, être unis ensemble sans cesser d'être une unité séparée ou être deux sans cesser d'être unis. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas évident. Là. Mais encore une fois, on revient à la dimension précédente. Là. Si là, je suis où là-dedans? Là, je fusionné avec Claude, c'est un mariage si à moi, OK? Non, je peux être moi-même tout en étant une unité séparée avec l'autre. En conclusion, le paradoxe du mariage et de l'amour réside en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. OK? C'est ça le paradoxe. C'est ça le côté. Puis vous savez quoi? C'est là qu'est l'épanouissement. Vous savez quoi? C'est là qu'est le bonheur. C'est que je ne me perds pas. Je ne perds pas ma personnalité. Elle se raffine, elle s'améliore. OK? Je vais vous donner un exemple. De façon très traditionnelle, c'est un peu cliché ce que je vais vous dire. Nous, les gars, on est beaucoup plus rationnels et nos femmes sont beaucoup plus intuitives. Les dames sont beaucoup plus intuitives. Moi, ma femme, Marie-Jo, mon amour de ma vie, c'est une fée des tropiques. OK? Sa mère est française, mais son père est réunionnais. Et ils ont vécu, tous ceux qui vivent dans nos amis africains, là, cette texture, OK, qui fait que des fois, elle me dit, je vois de quoi, je sens de quoi, je sens... Okay. Moi, il faut que je processe ça dans mon ordinateur de bord. Là. Je vais fouiller sur mon disque dur, je travaille fort là-dessus. Il faut que j'apprenne à me fier. Mais quand on est bien unis et bien intimes ensemble, on comprend que c'est une valeur ajoutée. Je deviens de plus en plus intuitif. Je me fie à ça. Parce que l'intuition, là, en langage technique, là, c'est de la métacommunication. C'est un niveau de communication tellement subtil, OK, que ça résiste à toute la réflexion, l'hypothèse, les faits, le cumul des faits, l'analyse des faits. C'est long, ce processus-là. Là, okay? On va chercher des... Non, c'est l'intuition, c'est rapide. C'est presque spirituel dans ce sens-là. Donc, c'est une valeur ajoutée à notre vie. Donc, on est unis, on est ensemble. Mais moi, vous savez, j'enseigne là-dessus, je termine là-dessus, parce que je viens d'une époque où les mariages chrétiens, c'était quelque chose dans lequel on se perdait, on n'existait plus. Le une seule chair, là, d'ailleurs, on dit souvent à la blague, c'est la première dispute qu'ont eu Adam et Ève. OK, on a une seule chair. Laquelle? La tienne ou la mienne? OK. En fait, c'est drôle, mais c'est à peu près ce qui arrive parfois. La femme, elle se fusionne dans la vie de l'homme. Okay, elle pense comme lui, elle vit comme lui, elle vit sur toutes ses règles à lui. Ou c'est l'inverse. Le mari il soumet à sa femme à un point tel qu'il se dépersonnalise. Ouais. Non, la plénitude, c'est pas la disparition de qui je suis. Voyez-vous? C'est que tout ça se crée dans le cadre d'un mariage qui est en santé, dans lequel on est bien ensemble. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le mariage, c'est une valeur ajoutée à ma vie. Je suis plus heureux marié que je ne l'étais tout seul parce qu'il y a des choses que je ne peux pas m'auto-combler. C'est beau s'aimer soi-même, non? Mais il y a une limite à tout cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Okay, penchons la tête, fermons les yeux quelques instants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute cette notion parfois d'identité, d'intimité, peut paraître un peu complexe. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on ressent quand on n'est pas ce qu'on devrait être. Ou qu'on est ce qu'on ne sent pas qu'on doit être, Seigneur. Parce qu'on s'est perdu au travers de tout ça. Seigneur, je prie en ce moment que par ton esprit, tu puisses parler au cœur de chaque personne ici en ce moment. Quel est l'effet que je crée chez l'autre? Est-ce que je suis en mode de contrôle excessif? Est-ce que je, je, j'oblige l'autre à vivre dans ma vie à moi, où on partage ensemble une vie dans laquelle on a les mêmes privilèges, les mêmes, j'aime pas le mot droit, mais les mêmes opportunités. Ou à quelque part, il y a une domination, dominant-dominé. Seigneur, mets toutes choses en la lumière par ton esprit, comme toi seul peux le faire, oh Dieu. De façon que ce mariage dans lequel nous sommes soit quelque chose qui favorise notre épanouissement mutuel. Je suis que ce que je suis grâce à elle, grâce à lui, grâce à toi, Seigneur, bien sûr. Seigneur, fais cette œuvre dans leur cœur en ce moment par ton esprit et sois honoré pour tout ce que tu fais. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.
Ça va? On aime ça? Je suis content, vous n'avez pas dormi. Je n'ai pas entendu de ronflement de personne. C'est bien. Alors, ce qu'on va faire, et dans le programme, il va y avoir un petit changement. Il était question qu'on allait poser des questions maintenant. Alors, vu que nous n'avons pas assez de temps, parce qu'on a fini de manger tard, on a commencé tard à manger, puis on a fini tard. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va aller à pause collation tout de suite. La collation est prête? Oui, c'est déjà prêt. Je vous informe que c'est prêt. Vous allez partir manger. De quoi? 15 minutes après, on rentre ici. Il va faire sa... Oui?
Juste avant qu'il
parle. Oui?
Oui. Je permets que je passe le petit clip vidéo.
Oui, oui.
C'est mieux de le faire maintenant que de le faire au début.
Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, vous allez regarder un petit clip qu'il va présenter. Et puis après, on va passer à la pause. Et après, on reviendra pour la troisième partie. Et à la fin de la troisième partie, on aura entendu deux séances d'enseignement. S'il y a du temps, on posera les questions. Ça peut aller. Et après, on terminera par la prière et la prière finale. Ça vous convient? Oui, chérie Coco, oui. OK, on dit de garder les petits pots qui vont être recyclés. Parce qu'ici, la cuisine croit à l'écologie, au recyclage. OK, merci. Je pense que tu nous enseignes qu'on nous recycle,
ouais,
non?
Oui, c'est vrai. On a une deuxième vie.
Vous pouvez passer la petite vidéo, s'il vous plaît?
OK, non, je vais la passer la partie, mais moi, je l'ai déjà. OK. Juste avant de passer le petit clip vidéo, une petite présentation bien simple de quelques minutes. Vous savez que les mœurs se changent. Bon, certains sont venus me voir à la table et m'ont dit, Pasteur Denis, vous n'avez plus vos CD, vous n'avez plus vos coffrets, tout ce que vous avez jamais, une panoplie. Si vous allez sur le site web, ils sont toujours là. Nous arrivons à la fin du règne des CD. OK? Ceux qui ont des voitures, les CD sont décédés. Ceux qui ont des nouvelles voitures, là, peut-être même de 2-3 ans, vous n'avez même plus de CD dedans. Là. C'est fini tout ça. Là. OK? Donc, il faut se retourner vers d'autres formes de production de matériel et tout cela. Et la réponse à cela, c'est Internet. OK? Donc, sur le site web denismorissette.com, maintenant, j'ai mis sur pied une plateforme éducative. Donc, vous allez voir un extrait là, juste de la première étape. Et vous regardez simplement la vidéo. Après coup, je vais juste commenter. Puis après coup, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. OK? Vous savez, dans la vie, ou vous êtes figurant dans le film de quelqu'un d'autre, ou vous avez le premier rôle dans le film de votre propre vie. Quelqu'un a dit un jour, « L'homme sage ne s'attend pas à trouver la vie comme valant la peine d'être vécue. Il fait en sorte que celle-ci en vaille la peine. » Avez-vous parfois l'impression d'être à côté de votre vie? Tout ce que vous faites ne réussit pas, vous n'arrivez pas à dénouer telle situation, à résoudre tel problème, et vous êtes submergé par tout cela. Vous savez qu'il existe des solutions. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette nouvelle série d'enseignements qui s'appelle « Le cours de la vie ». Dans ma propre vie, j'ai eu l'impression de me retrouver adulte face à la vie et de ne pas savoir quoi faire, comment tirer mon épingle du jeu. Parce qu'on a l'impression parfois que dans la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais c'est justement l'essence du cours de la vie. Vous offrez des stratégies pertinentes, des conseils pratiques pour vous aider à faire face et à triompher de tous ces défis. Je m'appelle Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue au cours de la vie. La
vie, ce n'est pas quelque chose que l'on subit, mais c'est quelque chose que l'on saisit pleinement.
C'est pas plus long que cela. Donc, vous avez vu un petit peu l'essence de ce projet. Ça s'appelle Le cours de la vie. Il y a 20 vidéos en ce moment qui sont en ligne. Ils ne sont pas en ligne sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous n'avez pas accès à ça. Vous avez accès à ça seulement en passant par le site web. Parce que maintenant, tout mon matériel, je suis en train de tout refaire, tout cela en vidéo et DVD avec une production. Vous avez vu, ceux qui connaissent un peu ce qu'est Masterclass aux États-Unis, là, c'est un peu dans cet esprit-là. Là, en ce moment, il y a 20 vidéos en ligne. Et cette série sur le cours de la vie, potentiellement, il va se rajouter une dizaine d'autres vidéos parce que j'ai une dizaine d'autres thèmes que je suis en train de développer. Puis il y a plein d'autres thèmes que je vais développer. J'ai au moins 15 heures de matériel sur juste les émotions humaines. Okay? On a parlé un peu de honte, on a parlé où je décortique tout ça. J'en ai énormément sur le couple. J'ai tellement fait de conférences de couple et de séminaires de couple. J'ai des bagages, j'en ai plus fini. Tout ça, ça s'en va, on s'en va en studio, refaire tout ça avec une équipe technique de hors plan, vraiment hors norme. Si cela vous intéresse, OK, ce que je vous propose cet après-midi, j'ai laissé des feuilles sur ma table où est le livre « Marcher sur le chemin du bonheur ». Vous n'avez qu'à me laisser votre email, nom, prénom, téléphone et email. Pourquoi votre téléphone? Parce que je ne suis pas capable de lire des emails parfois, là. rosefleury777.gmail.com. Pas toujours évident avec les pattes de mouche de lire ça. Donc, on prend le numéro de téléphone puisqu'on valide votre adresse email. Et si ça vous intéresse, donc, vous pourrez avoir accès à ça. Et bien sûr, ça coûte quelque chose. C'est ça qui fait vivre le ministère. Moi, je ne suis pas supporté par rien d'autre, hein, aucune église. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous envoyer l'information directement par email, puis je vais vous envoyer un code promo qui va vous donner 25 % de remise sur l'achat de ces vidéos-là. Okay? Vous pouvez les acheter individuellement, vous pouvez acheter le méga pack à 20 vidéos d'un coup, vous pouvez acheter des packs de 5 vidéos à la fois, dépendamment de vos besoins, et vous avez toujours accès aux vidéos. C'est un peu comme Netflix, c'est-à-dire, à partir du moment où vous l'avez acheté, la seule chose, c'est que vous ne pouvez pas les télécharger, parce que les gens vont les piquer, puis vont les reproduire, vont mettre ça sur YouTube, puis moi, je vais finir itinérant à Montréal avec mon panier d'épicerie à Mission Bon Accueil. Okay. Donc, l'idée, c'est de vous avoir accès de façon illimitée. De façon, vous allez vous connecter, vous avez comme un compte, un compte étudiant, si vous voulez. Vous vous connectez avec un mot de passe, vous avez accès à vos vidéos tant que vous le voulez à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse, venez juste me voir à la table, ou durant la pause, ou après la pause, ou après la dernière session, et juste laisser votre email. Ça ne vous engage à rien. Moi, je ne peux pas. Et à ce moment-là, on va vous envoyer toute l'information. Ça va? Oui, mais si tu veux avoir l'accès au code promo, il faut que je sache qui tu es. Enfin, je te dirais, même si tu es déjà sur ma liste de correspondants, tu es sur SRA, toi?
Oui, SRA,
les deux? OK. Bien, c'est juste que j'ai besoin de savoir, parce que en ce moment, ma base de données, c'est presque 10 000 personnes. Hein. Donc, je ne sais pas qui est qui, du Burkina Faso au Canada, un peu partout. Donc, si j'ai vos feuilles, on vous adresse à vous de façon plus personnalisée. OK? Ça va? Je ne vous retiens pas plus. Je ne suis pas un représentant de commerce, ni un commercial, comme disent nos amis français. Je suis un pasteur, mais je vous partage l'information parce qu'on s'en va dans une nouvelle direction à ce niveau-là. Puis c'est le seul moyen qu'on a de propager ces messages-là. C'est vraiment comme une cours d'éducation. D'ailleurs, chaque leçon commence toujours par comment. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très pratique. C'est good? Si vous avez des questions, je me sens à l'arrière de façon ou d'une autre. Okay. C'est bon?